Et je laisse maintenant la parole à Florence Frémont. Merci.
Bonsoir à tous. Donc, je pense que pas mal de gens me connaissent déjà par le biais du conseil aux collectivités que je mène et que mes collègues mènent dans le territoire de toute la Haute-Garonne. Donc, j'ai le plaisir d'introduire cette soirée. Je vais vous parler donc de quel aménagement dans un contexte de sobriété foncière. Donc, un petit mot pour démarrer. On sait qu'aujourd'hui, quand on interroge les Français, trois quarts de la population française rêve encore aujourd'hui d'habiter une maison individuelle avec un jardin. Pourquoi ? Parce que ça offre un certain nombre de possibilités. Habiter une maison individuelle, ça permet de stocker, de ranger, de bricoler, de faire évoluer sa maison en fonction de l'évolution de sa famille, de l'étendre, de la surélever, de créer pourquoi pas des annexes et aussi de la personnaliser. Ce qui pose d'ailleurs parfois un certain nombre de problèmes pour vous élus quand vous êtes amenés à faire respecter notamment des règlements d'urbanisme et que les clôtures sont non enduites, que chacun veut faire quelque chose qui n'est pas forcément accepté dans le PLU, etc. Et à côté de ça, on a un contexte d'étalement urbain que vous connaissez aussi, je ne vais pas vous faire un cours sur ce sujet-là. Un contexte d'étalement urbain qui a été en particulier accéléré ces dernières années. En fait, ce qu'on constate, c'est que finalement, l'urbanisation en proportion augmente quasiment trois fois plus vite que n'augmente la population. Et ça, c'est général à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Donc effectivement, ça pose question, ça pose des questions de consommation foncière qu'il faut réguler. Le législateur a opté pour le zéro artificialisation net pour le réguler. Ça pose pas mal de questions. Et notamment, ça va inciter les collectivités et tous les acteurs de l'aménagement à travailler différemment. Aujourd'hui, c'est vrai que la filière de la construction de maisons individuelles, elle est particulièrement bien structurée, avec des constructeurs notamment de maisons individuelles qui vendent des plans clés en main, qui sont plutôt d'ailleurs des plans adaptés au terrain plat, très peu au terrain en pente, ce qui pose pas mal de problématiques dans votre territoire qui présente pas mal de coteaux. Et donc ça entraîne un certain nombre de terrassements, de modifications du paysage, etc. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le zéro artificialisation net nous amène à réfléchir à un aménagement plus sobre en foncier, de fait, et incite les territoires à travailler notamment dans la perspective du renouvellement urbain. Donc renouvellement urbain, ça veut dire travailler sur la ville sur la ville, travailler sur le déjà là. Et les urbanistes ont coutume de dire que finalement 80% de la ville de demain est déjà là. Ce qui laisse une marge, ce qui laisse un 20% sur lequel on peut faire quelque chose, mais ce qui va vouloir dire qu'il va falloir quand même agir pour travailler autrement que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, où on s'est quand même pas mal étalé. Donc le CAUE a édité il y a 2-3 ans maintenant un guide sur la sobriété foncière. Je vous le montre juste, je vous en montre la couverture. Je pense qu'un certain nombre d'élus que je reconnais dans la salle l'ont déjà. On a déjà eu l'occasion de communiquer pas mal sur ce guide. Ce guide, si on reprend la séquence éviter, réduire, compenser qu'on peut appliquer à l'urbanisme, c'est-à-dire éviter, c'est rester dans les enveloppes urbaines existantes, on va dire réduire, c'est se développer, mais en densifiant et donc en consommant moins de foncier que ce qu'on faisait précédemment, et compenser, ça veut dire remettre en nature, si on peut dire, des espaces qui étaient précédemment urbanisés. Donc ce guide s'inscrit plutôt dans la logique de l'éviter. Donc on était encore dans la perspective de parler d'extension urbaine, mais d'extension urbaine plus mesurée. Et aujourd'hui, on s'attelle à vous proposer un nouveau guide qui va plutôt parler de comment on travaille dans l'enveloppe des tissus urbains existants et quelque part, quelles sont les marges de manœuvre des élus et quels acteurs rentrent en jeu dans ces opérations-là. Donc ce soir, je voulais évoquer quelques sujets. Le premier, c'est densifier. Alors, densifier, quand on parle de densifier, ça peut inquiéter parfois. La densification, ça prend diverses formes. À l'échelle du bâti, densifier, ça peut être surélever sa maison ou l'étendre, je l'évoquais tout à l'heure. Ça peut être, à l'échelle du bâti aussi, intensifier les usages, en quelque sorte. Et donc, là où on avait une unité de logement, on peut en avoir deux en divisant par plateau, voire en ayant une division du bâti de manière verticale. ça peut être différentes manières de densifier. Et ensuite, si on s'intéresse au foncier non bâti, c'est réussir à mobiliser du foncier non bâti qui peut être dans le tissu urbain existant, des délaissés de voirie, par exemple, des fonds de jardin qu'on va pouvoir bâtir par division parcellaire. Alors, c'est un phénomène, ça, la division parcellaire, que vous connaissez tous dans vos communes et parfois que vous avez du mal à maîtriser. Ça peut être intéressant de travailler dans ces fameux tissus pavillonnaires dans lesquels les jardins sont relativement vastes, de travailler de manière un peu fine pour poser un cadre un peu adapté en fonction des contextes à des règles qui vont permettre une certaine densité tout en faisant que ces quartiers évoluent de manière maîtrisée et ne vous génèrent pas des problématiques, notamment de réseaux, de trafic non anticipé, enfin tout un tas de choses qui peuvent être plutôt négatives. Quand le foncier est disponible sur des surfaces relativement importantes, je pense à des communes qui nous font réfléchir sur plusieurs hectares, on peut imaginer travailler sur des typologies de bâtis variées. Je pense à la maison en bande, par exemple, les maisons de village. Ce que vous avez en fait dans vos noyaux villageois historiques, mais qu'on peut arriver à reproduire comme à Saint-Sulpice, ici même à l'opération Librelaise qu'on a déjà fait visiter à certains élus qui sont dans la salle. Donc on a des exemples d'une certaine densité qui fonctionne, même si on peut toujours trouver des choses qui fonctionnent moins bien dans les opérations, mais globalement ça fonctionne. On a aussi des typologies d'habitat comme l'habitat intermédiaire, donc le principe de deux logements superposés avec des accès individualisés, des espaces extérieurs privatifs, qui offre aussi des potentialités intéressantes, un peu différentes du collectif, puisque chaque logement a son extérieur privatif. Donc celui qui est évidemment à l'étage a une grande terrasse. L'idée, c'est d'avoir une terrasse d'une cinquantaine de mètres carrés, un peu plus grande que le petit balcon, quoi. Et ça, c'est des typologies de logements qui peuvent être attractifs pour certains publics. Ça peut être des personnes âgées qui veulent se rapprocher de la centralité. Ça peut être des jeunes couples qui n'ont pas forcément les moyens d'acquérir autre chose. Et puis l'avantage de ces typologies bâties, c'est que si elles sont bien situées, en fait, le fait d'avoir un extérieur de dimension beaucoup plus petite peut être finalement compensé par la proximité, notamment la proximité des équipements, des commerces, etc. Chaque projet, évidemment, se réfléchit dans un contexte urbain spécifique. Et quand on dit que le ZAN nous amène à réfléchir à la question du renouvellement urbain en tissu existant, ça veut dire qu'il va falloir, entre guillemets, travailler dans la dentelle. Donc travailler vraiment avec une adaptation fine au contexte. Et ce n'est pas tant la forme bâtie ou la hauteur qui finalement est en question, mais plutôt le projet qu'on va réaliser par rapport à un contexte, en fait. Je pense que densifier pose un certain nombre de questions particulièrement sensibles. C'est la question de la maîtrise des vues et de l'intimité. Parce qu'effectivement, on s'inscrit dans un contexte d'un voisinage qui est déjà là. Donc, en fait, comment on permet à chaque logement de conserver son intimité quand on vient bouleverser ce qui se passe dans un contexte qui est déjà là? Ben, il y a des voisins qui sont habitués à avoir une vue sur un jardin, etc. Si on bâtit un fond de jardin, comment on met à distance chacun pour que chaque habitant se sente bien? Parce que la question, c'est rendre acceptable la densité, en fait. C'est toute la question. C'est comment faire pour que chacun se sente bien et qu'il ait envie de rester dans son logement en cœur de bourg, dans un contexte finalement plus urbanisé. La deuxième idée, c'est offrir de l'habitabilité et un confort d'usage. Donc offrir de la lumière, offrir un espace extérieur, effectivement, offrir un confort thermique et phonique. Et là, quand on travaille sur un bâtiment ancien, ça veut dire mettre aux normes ce bâtiment, par exemple. Et donc arriver dans des bâtiments existants de différentes époques à leur offrir toutes les qualités qu'attendent des acquéreurs d'aujourd'hui, on va dire. Donc ça peut être le garage, par exemple, ça peut être effectivement l'espace extérieur. Et on peut se trouver dans certaines situations en confrontation avec certains interlocuteurs compte tenu de la dimension patrimoniale de certains bâtiments. Je dirais aussi qu'il faut porter une attention particulière au rez-de-chaussée, parce que les rez-de-chaussée sont les volumes qui animent la rue, et c'est aussi eux qui vont être porteurs d'une certaine attractivité, soit pour des commerces, des services éventuellement, pour des logements aussi, mais quand on se questionne sur l'attractivité des centres-bourgs, la question du commerce ou du service en rez-de-chaussée est importante, et c'est ce qui est à hauteur d'homme. Donc en fait, quand on on va forcément être amené à se questionner sur la place de l'automobile, par exemple, dans les centres-bourgs. Si on a un rez-de-chaussée qui est complètement dédié à l'automobile, complètement opaque, c'est pas du tout la même chose qu'avoir une vitrine. Voilà. Donc vous comprenez bien la question. Et densifier, ça pose aussi la question de l'espace public, parce que si on réduit les extérieurs dédiés à chaque logement individuel, effectivement, il faut que les gens, en compensation, trouvent au pied de chez eux un espace public de qualité, préférentiellement un espace de nature à l'heure du réchauffement climatique et des îlots de chaleur, mais effectivement un espace public de qualité qui font que, quelque part, leur petit extérieur privatif soit compensé. Donc intervenir en tissu existant, ça pose un certain nombre de contraintes, je l'ai déjà dit, ça nécessite de prendre en compte le déjà là. Ça nécessite aussi de faire appel à des partenariats souvent plus complexes et une ingénierie à la fois technique, financière, voire juridique pour mener à bien ces projets qui s'inscrivent souvent dans des démarches, dans des temps plus longs en fait. On a tendance à dire que le temps de l'aménagement c'est une dizaine d'années, mais peut-être un peu plus parfois si on est dans des complexités liées à la maîtrise foncière. Enfin, je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est la question du recyclage bâti dans une approche coût global. Donc le coût global, c'est la question de la construction et des sommes des coûts mis en jeu dans la construction. Donc il y a bien sûr le coût d'investissement, mais il y a aussi le coût d'exploitation, le coût de maintenance et tout ce qui concerne la durée de vie d'un bâtiment. Alors souvent on entend le fait que rénover, ça coûte finalement plus cher que de construire en neuf. Donc je pense qu'il faut aussi se dire que c'est une idée qui est un peu fausse, et quand on dit ça, on ne prend pas forcément en considération le coût environnemental d'un projet neuf dans toutes ses dimensions, et notamment sa consommation en matériaux. L'ADEME en 2019 a sorti une étude qui nous dit la construction d'une maison individuelle consomme en moyenne 1,2 tonnes par mètre carré de matériaux, soit environ 40 fois plus que la rénovation. Donc finalement, rénover, c'est une économie de matériaux, et la rénovation, c'est une question qui mérite d'être posée systématiquement, je pense, quand on aborde un projet, quel qu'il soit. Conserver des bâtiments existants doit systématiquement être étudié. Je dois dire quand même qu'attention, parce que tout bâtiment ne peut pas s'adapter à tout type de programme. Alors je pense à l'exemple de Madame le maire d'une commune qui est dans la salle, pour laquelle on vient d'étudier récemment un bâtiment. Et on se posait la question d'y bâtir une école, et on s'est rendu compte qu'effectivement, structurellement, ce bâtiment n'était pas forcément adapté à cet usage, mais bien plus adapté, de par sa trame constructive, à y faire des logements. Donc, comme il y avait du foncier autour de ce bâtiment et qu'elle envisageait une extension urbaine aussi sur ce foncier, on a un petit peu renversé la question et on s'est dit que c'était plus pertinent d'envisager du logement dans cette bâtisse ancienne, et puis plutôt l'école en neuf, alors que la question première était plutôt l'inverse. Vous voyez, c'est ça que je veux dire en disant que tout type de programme n'est pas adapté à tout type de logement. Aujourd'hui aussi, on se pose des questions de réemploi, donc de déconstruire quand la déconstruction est nécessaire ou quand l'adaptation d'un bâtiment est nécessaire. On se pose la question de réemployer certains matériaux, soit sur site, soit sur d'autres sites. Et dans certaines situations, puisque je vous disais que c'est très important de considérer la question de l'espace public, on peut aussi se questionner sur le fait de créer des vides dans le tissu urbain existant, justement pour l'aérer, éventuellement pour amener de la lumière dans les logements, pour offrir les qualités d'adaptabilité que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez que la question est très très complexe. Je voulais juste évoquer un dernier petit point avant de vous montrer quelques exemples. Je pense qu'une des manières aussi de travailler dans les tissus urbains existants, c'est en fait intensifier les usages. Et je terminerai sur ce dernier point, mais ça me semble être un axe de réflexion important, intensifier les usages. Ça peut prendre différentes formes. Vous connaissez sûrement, par exemple, l'habitat partagé. Donc, ces groupes d'habitants qui réinvestissent parfois des volumes bâtis qui seraient impossibles à réinvestir s'ils étaient seuls, et qui mettent en commun certains espaces comme les chambres d'amis ou les ateliers de bricolage, etc. Ça peut permettre à l'échelle individuelle d'économiser sur son propre projet de logement, et à l'échelle collective, en plus, de réinvestir parfois des bâtisses qui seraient pas accessibles à titre individuel. La mutualisation, ça peut être mutualiser les stationnements, ça peut être mutualiser des salles communales, On a souvent le cas, nous, en termes de réflexion auprès de vous, collectivités, on essaye d'amener les élus à réfléchir à la mutualisation dans les écoles des salles de motricité. Ces salles de motricité, quand elles ont un accès différencié depuis l'extérieur, peuvent être souvent utilisées, par exemple, par les associations. Et ça évite de recréer des surfaces de locaux associatifs et de démultiplier les mètres carrés qui coûtent cher. Je vais passer rapidement à quelques exemples d'interventions en tissu urbain existant. Le premier cas, c'est une petite commune du Lauragais, où vous voyez qu'on est dans une circulade et une trame urbaine très affirmée. Et cette petite commune du Lauragais avait une salle des fêtes en mauvais état et a choisi de réaliser un projet neuf qui comporte une mairie à l'étage, vous le voyez sur la photo du bas, une mairie au niveau haut, la salle des fêtes qui est au niveau bas, et les deux bâtiments existants ont été transformés en logements. Donc pour moi, ça c'est une manière de mobiliser un foncier qui était existant, qui était en fait un petit terrain de basket qui ne servait pas vraiment, visiblement, et qui a été mobilisé pour ce projet tout en restant dans l'enveloppe urbaine existante. Le deuxième exemple à droite concerne une intervention qu'on a sur une commune périurbaine que je ne nomme pas parce que ce n'est pas un projet qui a abouti pour le moment. Mais en termes de réflexion, c'est plutôt intéressant. Donc on a proposé en haut un scénario qui est une adaptation d'un projet de promoteur à la marge, on va dire, avec un rez-de-chaussée qui est assez fermé justement sur la rue puisqu'il présente que des parkings en fait en rez-de-chaussée. Et on a proposé en bas une solution alternative. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué dans la lecture, mais on a donc un collectif en rez-de-chaussée. Derrière, on propose plutôt des typologies d'habitat intermédiaires et on suggère à la collectivité d'essayer de récupérer un petit bout de foncier à l'arrière. Enfin, de faire en sorte que le promoteur puisse se récupérer, c'est plus exactement ça. Mais pour assurer le stationnement et ce qui permet de libérer un peu de place sur la parcelle. Et on réutilise surtout la bâtisse existante dans l'exemple du bas, alors que le promoteur démolissait tout. Donc nous, on arrive à leur faire une proposition où on recrée du logement. Deuxième diapositive, un petit point sur la question des friches. Là, vous avez l'exemple de Villemur-sur-Tarn, où la commune a réussi à créer des logements collectifs sociaux dans un des bâtiments de l'usine Brusson en 2005. C'est un projet qui est un peu ancien et qui devrait pouvoir se poursuivre dans quelques temps, puisque le groupe Essor se porte candidat sur un deuxième bâtiment en fait, de cette usine pour y créer un projet mixte. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que les promoteurs en fait utilisent un certain nombre d'outils. C'est sur l'outil Carto-Friche, qui est un atlas mis en place par l'État, que le promoteur a pu avoir connaissance de ce site et s'est positionné sur ce projet, alors que la situation était bloquée depuis pas mal d'années et qu'il y avait déjà eu plusieurs pistes de projets qui avaient échoué depuis lors. Et donc j'en viens à la question des espaces publics. Deux exemples intéressants. Le premier à Lavelanet, où la rivière dans ce quartier du Sécoustous était couverte. La mairie a engagé un gros projet de reconquête de Lavelanet, qui est une commune qui était en phase de désindustrialisation et de perte d'habitants assez importante. Et donc la commune a engagé toute une démarche de reconquête qui passe entre autres par l'espace public. Ils ont travaillé pour remettre à nu cette rivière avec un travail très qualitatif sur l'espace public en bord de rivière, de la désimperméabilisation entre autres, et de la démolition partielle pour créer de l'espace public de manière plus généreuse. Donc, ce qui est intéressant, et ils ont un gros problème de vacances de logement et d'insalubrité de logement sur ce quartier, et il commence à y avoir un effet d'entraînement et de réinvestissement des populations dans ce secteur-là. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et un autre exemple à Laguiole, où là il y a une démolition d'un bâti. Et en fait, la commune a choisi de garder ce bâti démoli, de ne pas rebâtir à cet endroit, même si elle pourrait mobiliser ce foncier pour ça. Mais elle a choisi, elle, au contraire, d'y créer un jardin, de désimperméabiliser et justement d'aérer plutôt le tissu. Et donc ça aussi, c'est des éléments qui peuvent être pris en considération pour redonner un cadre de vie de qualité à la population.
Je voudrais juste vous poser une première question. Comment résoudre l'équation densification espace vert ? On doit réutiliser le bâti, on doit réutiliser le foncier. Et comment je fais pour recréer des espaces verts, des espaces de vie ?
Je le disais précédemment, en fait, le bâti existant doit être analysé par rapport à sa qualité architecturale, sa qualité structurelle. Quand le bâti est d'une qualité structurelle vraiment défaillante, je pense qu'on peut parfois, à condition qu'on ait réfléchi à un projet d'ensemble, c'est quand même ça qui est important, c'est d'avoir une réflexion globale, une réflexion d'ensemble. et de se dire que oui, peut-être qu'à certains endroits, il est pertinent de venir démolir pour créer un espace de qualité qui va bénéficier aux voisins et qui va rendre quand même attractif ce cœur de bourg. Et je crois que les exemples qui sont derrière moi en témoignent.
Colline a le micro, donc si quelqu'un veut poser une question, lève la main. Colline va vous passer le micro.
Oui, Jacques Doumer, président du Conseil de développement du Pays du Sud toulousain. Alors effectivement, vous nous avez décrit toute une série de possibilités d'aménagement qui peuvent paraître séduisantes, mais disons, nous, au niveau du CODEV, on a une remontée un petit peu de la population sur le ressenti, en fait, de ce qui s'est passé depuis quelques années. Je crois qu'il n'y a pas de remise en cause de la notion de sobriété. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu des abus. Hein. Donc le problème, sur deux points sûrs, notamment, vous avez un peu parlé, c'était le problème de la densification au niveau des lotissements. On a des parcelles aujourd'hui qui font 150, 200 mètres carrés, avec la maison qui est au milieu, dont on veut faire le tour, avec là aussi où ne sont pas respectés les problèmes de vue que vous avez soulignés, avec les problèmes d'intimité qui sont absolument impossibles et qui génèrent quand même beaucoup de... Enfin, je crois que beaucoup d'élus ici sont confrontés aussi à ce problème de promiscuité. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver à densifier sûrement, mais il faut absolument arriver à établir des règles. Aujourd'hui, ça se fait de façon un petit peu quand même très libre. Et le deuxième point, c'est un peu l'aménagement des zones UB, qui entouraient ces zones UA, où on avait des terrains de 2000 m² qui avaient été faits avec des règles quand même qui avaient été pensées à l'époque. On avait travaillé sur les notions de formes urbaines, d'alignement. Où on a, aujourd'hui, j'ai quelques exemples en tête, où sur un terrain de 2000 m², on retrouve 5 maisons. 5 maisons construites dans n'importe quel sens, en fait. Plus rien n'est respecté. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la question qui se pose au niveau du SCOT, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à laisser un peu la liberté? Ou alors, quel type de règles on va pouvoir imposer pour arriver à conserver quand même une notion qualitative en matière d'urbanisme et de qualité de vie aussi?
Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de règles qui peuvent être mises en place dans les PLU et qui ne sont pas toujours exploitées au bout de leurs possibilités. Je pense notamment à des OAP thématiques qu'on peut mettre en place, des OAP en zone U même, pour travailler sur le renouvellement urbain. Pour l'instant, on n'en voit quasiment pas. Donc il y a quand même quelques leviers d'action qui sont possibles. Il y a peut-être encore des choses à inventer. Mais je pense qu'on peut quand même arriver à réglementer un certain nombre de choses. Et après, je crois beaucoup en la qualité des professionnels architectes urbanistes. Après, ce qui s'est passé quand même pas mal de fois, c'est qu'on a eu affaire à des signatures de complaisance sur des permis d'aménager, qui ne permettent peut-être pas toujours d'avoir des projets de promoteurs sur certaines parcelles que vous évoquez, qui aillent dans le sens de la qualité qu'on souhaiterait. Donc je pense que dans l'instruction des permis, il faut être hyper vigilant, et en amont, dans les règles qu'on établit, pouvoir aller au maximum de l'exploitation de ces règles, ce serait pas mal. Après, je crois que d'être dans le dialogue constructif le plus en amont possible avec les promoteurs quand il s'agit d'opérations d'envergure, ça me semble être aussi une des clés, et être très ferme sur ce que vous, collectivité, vous souhaitez voir respecter dans ces projets. C'est être très clair sur vos ambitions, ce qui n'est pas toujours simple quand on n'est pas professionnel.
Vous évoquez le problème des centres-bourgs, effectivement, et quelle est l'adéquation qu'on peut envisager entre l'architecte urbaniste et l'architecte des monuments historiques ?
C'est vrai que c'est une vraie question que vous posez, à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Enfin, nous, on est parfois dans cet échange à vos côtés quand ça se présente. C'est le cas dans quelques communes, je vois quelques élus là dans la salle. Mais effectivement, c'est un dialogue qui est parfois complexe. Dans tous les cas, je pense que si on veut arriver à avoir des centres-bourgs attractifs, je pense que les ABF, en l'occurrence, vont devoir faire parfois des efforts pour que les logements de ces centres-bourgs puissent en tout cas répondre aux qualités espérées par les habitants. C'est vrai que si on ne peut pas créer une terrasse en attique, par exemple, sous toiture, parce qu'on est complètement bloqué, si on ne peut pas arriver à créer une ouverture pour un garage en utilisant des matériaux de qualité, voilà, ça va être très très compliqué. Mais je pense que le dialogue est absolument nécessaire à chaque fois le plus en amont possible. Et il y a des possibilités quand même de discuter avec les ABF. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils se positionnent sur projet. Ça nécessite pour vous, communes, souvent d'être relativement avancés. Et en fait, quand ils ont un avis qu'ils donnent à un stade un peu avancé, c'est vécu comme une sanction, ce qui est bien compréhensible. Donc, je n'ai pas forcément de solution miracle à cette question, mais je pense que le dialogue va devoir s'engager de plus en plus fermement avec eux, en tout cas pour travailler sur les centres-bourgs.
On va prendre une dernière question, s'il y en a une, et après on va passer à l'interlocuteur suivant.
Oui, bonjour. Mon nom est Michel Boé. J'ai dirigé pendant 13 années une petite entreprise d'aménagement foncier, essentiellement dans des petits villages. Et donc, j'ai observé un phénomène de gentrification des villages. Ça consiste dans le fait que des personnes, ils préfèrent plutôt, des personnes souvent un petit peu aisées, préfèrent plutôt que d'avoir un appartement à Toulouse, avoir une grande maison. Et comme vous l'avez bien dit, Mme Frémont, il y a une, disons, une représentation sociale et également du pouvoir social et du bien-être qui consiste à avoir sa maison et avoir de l'espace autour de sa maison. Ceci est un petit peu antinomique du fait de la densification sociale. Et donc, notre réflexion ici consiste à se demander comment est-ce qu'on peut densifier. Mais la réflexion de ces gens-là qui ont fait cette gentrification, entre guillemets, puisqu'autrefois les conseils municipaux, c'était des gens du village, c'était des paysans, etc. Quand vous regardez maintenant, vous avez un paysan, vous n'avez plus 5 ou 6, et vous avez les gens du village, etc. Et ce sont des gens qui sont intelligents, dynamiques, généralement. Et ils posent le problème à l'envers. Ils se disent, mais attends, on veut me densifier, moi, mais je n'ai pas du tout envie qu'on me densifie. C'est le problème des zones déjà urbanisées qui est posé là. Et on observe des stratégies, j'en ai analysé 2, qui consistent à dire comment est-ce que je vais me protéger. Alors, c'est déjà apparu au stade de la loi LURS, c'est-à-dire la première stratégie a consisté à faire des modifications des PLU, en ce sens que, on réduisait par rapport au fond de parcelle, par rapport aux côtés, etc. On essayait de contrecarrer les effets de la loi Allure, qui était effectivement de donner davantage de terrain avec l'idée qu'on allait faire baisser les prix. Et donc, il y avait déjà. Et maintenant, il y a la loi Climat. Et certains se disent, tiens, la loi Climat, alors comment ils font? Parce qu'il faut s'opposer à la densification tout en ayant l'impression d'en faire. Et pour ce faire, on fait appel à qui? Au promoteur. Parce que le promoteur, lui, on va faire venir, mettons, un bureau d'études, qui, et c'est assez facile, ça coûte d'amener des réseaux, etc., disperser. J'ai en tête le cas d'un village où il y a des hameaux, des quartiers, on a pris les hameaux, les quartiers, tout ça, on a dit de viabiliser tout ça, ça coûte très cher. Et donc le mieux, c'est de supprimer carrément la constructibilité dans ces quartiers hameaux, donc on interdit de construire, et on va définir 3 zones à urbaniser, et sur ces 3 zones, on va faire appel à des promoteurs. On a des conséquences sociales importantes, puisqu'on a des effets de mixité sociale qui ne s'opèrent plus, puisque les nouveaux venus ne vont plus aller dans ces zones qui étaient anciennement urbanisées, ils vont être exclus. Et on n'est pas très conforme à l'esprit de la loi Climat et à tout ce que l'on cherche à faire, de densifier. Ce phénomène-là s'observe également ailleurs. Et là, il y a un problème qui est un problème assez central, celui des dynamiques sociales et qu'il y a des intérêts en jeu. Alors, les maires, les conseils municipaux, d'une manière générale, on le sait, ils n'aiment pas être des maires bâtisseurs au moment des élections, ça se retourne un petit peu contre eux. Donc, on fait appel à des promoteurs qui, en des lieux un peu à l'écart du village, ne vont pas ennuyer les autres, c'est-à-dire les autres, tous ceux qui font 1/2, 3/4 d'heure de voiture pour avoir leur maison, etc., ils font cet effort considérable et ils n'ont pas du tout envie de se faire rétrécir avec quelqu'un au fond du jardin.
Je pense que vous pointez du doigt un phénomène de ségrégation sociale qui risque de peut-être se produire s'il n'y a pas, je dirais, des mesures d'accompagnement pour lutter contre ça, je pense.